Bonsoir, cher public. Bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Donc, la semaine dernière, on a eu une superbe émission avec le très connu, le très coloré Jérôme Landry. Si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, ben, je vais vous inviter quand même directement au début de l'émission à aller l'écouter. Dans le fond, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Balado. Bref, tous les moyens sont bons pour retrouver le podcast qu'on a fait, ben, l'émission qu'on a faite avec Jérôme Landry. Et pour vrai, là, c'est vraiment, on nous l'a dit, j'ai eu le commentaire du public, c'est vraiment une bonne émission qu'on a faite la semaine passée. Donc, si jamais vous avez un petit, un trajet de bus à faire, un trajet d'auto à faire, un petit balado avant de vous coucher, pourquoi pas. C'est toujours bien le fun. Puis en plus, justement, l'entrevue là, était très, très bonne. Cette semaine, on a une émission un peu plus relaxe. On a un invité qui s'appelle Charles Leblanc qui va venir en studio dans la deuxième partie d'émission. Charles Leblanc, que vous avez déjà vu l'année passée en tant que chroniqueur basketball là, pendant à peu près genre 15 minutes. Là, il était venu, on voulait parler basket. Finalement, on avait tellement débordé sur le hockey qu'on n'avait pas eu le temps de parler de basket, mais il va être de retour parce que il y a quand même beaucoup de nouvelles là, dans l'actualité basketball. Donc vers 9h30 là, après la pause dans le fond, il va être avec nous. Et pour toute la durée de l'émission, ben j'ai en studio mes deux collaborateurs de cette année, Félix Lajoie, Antoine Bélanger. Bonsoir.
Salut Charles.
Ça va, des hésitations. Salut Charles.
Salut les gars. Très content de vous retrouver. Félix, c'était pas là la semaine passée. Antoine, de retour cette semaine.
Ouais.
Toujours le fun de faire des émissions de radio ensemble. Puis pour vrai, ça nous pratique. T'es, les jeux approchent. Puis ça va être le fun.
Ouais, sérieux, c'est vraiment cool. Puis ça fait une belle activité le monde du soir. Là.
J'aurais pas dit mieux.
Tout à fait. Puis justement, là, faut être au fait de l'actualité sportive, faut tout connaître. Ouais. Et quelque chose ben, qui est pas très niché, qui est vraiment au contraire super mainstream, c'est la NFL. Puis j'ai envie qu'on en parle parce qu'en fin de semaine, il y avait les demi-finales de la NFL en vue du Super Bowl qui aura lieu là, le 11 février prochain. Parce qu'en fin de semaine prochaine, il y a une pause pour le Pro Bowl, oui. Et bon, on a eu deux matchs quand même très serrés en fin de semaine. Une victoire là, des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore, 17-10.
Ouais.
Et ensuite, une victoire des 49ers de San Francisco, 34-31 contre les Lions de Détroit. On aurait pu avoir Taylor Swift contre Eminem au Super Bowl.
Ouais.
Finalement, on a Taylor Swift contre Brock Purdy. Ça ressemble pas mal à ça. Chiefs Ravens, quand même déception pour ce qui est de Lamar Jackson. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars?
Honnêtement, j'ai entendu beaucoup de les Ravens contre les arbitres, mais pour de vrai, les Ravens se sont juste tirés dans le pied. Au moment où ça comptait, ils ont pas été présents. Flowers joue tout un match, puis là, ben, il manque le toucher à la fin du match. Ça a tué les Ravens. Après ça, l'interception, le pic de Lamar Jackson. Tu peux pas te remettre de ça. Puis t'as juste accordé 17 points au Chief.
Ouais. C'est l'attaque qui a été le problème.
C'est ça. Théoriquement, t'accordes 17 points au football. Tu remportes le match. T'es supposé de remporter ou du moins de forcer une prolongation. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Et honnêtement, je pense que les Ravens, toute l'année, ont très bien joué. Offensivement, ça a été super bon. La défensive a bien fait. Dans ce match-là, il a très bien fait. Mais offensivement, il manquait peut-être un Lamar Jackson des beaux jours. Lamar Jackson qu'on a vu lors de la saison, il était très dominant, jouait très bien, a porté son équipe à ce match-là, finalement, de finale d'association. Malheureusement, c'est là que ça comptait, puis il n'a pas été en mesure de le faire. Et on a vu les déceptions, là, Flowers, quand il a manqué son toucher. Honnêtement, les gars, ils donnaient des tapes à ses épaules, mais je pense qu'il doit encore faire des cauchemars à ce jour. Donc vraiment, c'est assez triste pour eux, mais je pense que les Chiefs, encore une fois, ont montré que défensivement, c'est du solide. Puis c'est une équipe qu'on sait depuis X années. Même si on les aime pas à cause de tout ce qui se passe avec Taylor Swift. Bref, j'ai rien contre ça. Mais je pense que pour le réel, on doit remettre à César ce qui est à César. Les Chiefs, c'est toute une équipe de football. Puis je pense que mais encore cette année, je pense qu'ils vont gagner.
Et Antoine, tu me disais cette semaine que la défensive des Ravens allait leur permettre de remporter le Super Bowl. Finalement, la défensive a bien fait, mais c'est l'attaque qui a pas suivi.
On avait mentionné là, les stats là, que ils accordaient juste 16 points par match. T'sais, c'est pas mal dans leur.
Ils ont été dans les moyennes quand même.
On s'entend, mais les. pour vrai, on peut pas passer à côté des Chiefs. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Travis Kelce qui sort son meilleur football de l'année.
Ouais.
Je pense qu'il croit 11 en 11, genre, même pas un attrapé manqué. C'est... Quand t'es meilleur, joue comme les meilleurs, tu peux jamais perdre. Puis on s'entend qu'il n'y a pas de Mahomes de ce temps-ci. Il est incroyable. Moi,
il est fumant.
Les Chiefs, ouais, c'est ça. Les Chiefs, c'est pas mes préférés. Pour vrai, je vais être bien honnête avec vous, les boys. Mais faut vraiment, comme Félix s'est dit, faut vraiment leur lever notre chapeau, là. Sont très, puis, très bons.
Puis moi, ce qui m'a surpris, c'est, mais Travis Kelce, il sortait de nulle part. Vraiment, toute la saison, il a échappé toutes les balles.
Il jouait mal.
Il était blessé, là, ça paraissait, puis on dirait qu'il était en pleine forme.
Mais c'est ça, puis là, il a vraiment choix dans un gros match. On sait que Travis Kelce, dans une zone de toucher, c'est le gros bonhomme qui va te faire un toucher. Tu peux y avoir la balle, il va l'attraper la balle, mais toute la saison, les Chiefs allaient discuter. Justement, attraper des balles, Kadarius Toney attrapait pas une balle. Tu sais, tous des joueurs qui avaient de la difficulté, puis là, on dirait que Travis Kelce a comme fait en sorte, hey, donnez-moi la balle, je vais l'attraper. Puis honnêtement, il a bien fait. Puis à la fin du match, je sais pas c'est quel joueur qui avait fait un gros attrapé pour justement sceller l'issue du match, quand même. Mais rappelez-vous que ce gars-là, pas connu une grosse saison, puis à la fin, il l'a attrapé. Je vais aller voir son nom par la suite, mais c'est le genre de jeu qui permet de changer un match. Honnêtement, Travis Kelce a joué tout un match, il a battu justement, battu un record de Rice, donc très fort, puis chapeau à lui, là.
Mais c'est ça, exactement. Puis en plus, là, on a dit toute la saison que, bon, avec le départ de Tyreek Hill, le groupe de receveurs des Chiefs allait beaucoup reposer sur Travis Kelce. Ben, même si lui, c'est un allié rapproché, mais quand même, tu comprends, il attrape des ballons.
Oh ouais.
Que l'attaque beaucoup allait reposer sur lui. Et là, toute l'année, il était pas là. Les Chiefs s'en sauvaient grâce à Patrick Mahomes, un bon jeu au sol.
Ouais.
Et là, on arrive en séries éliminatoires et là, c'est vraiment le duo Mahomes-Kelce qui est... qui reprend le flambeau, qui reprend justement cette attaque complètement dominante entre leurs mains.
Puis tu sais,
on les voit au Super Bowl.
Les partisans, là, je checkais ça sur Twitter, puis ça disait, oh, personne n'est capable de battre Pat Mahomes, personne n'est capable de battre Brady, mais tu sais, les gars, pensez à Joe Burrow, là.
Mm-hmm.
Les Bengals sont les seuls qu'ils ont battus les dernières années, ça n'a pas de bon sens, imaginez s'il avait été là. Je pense qu'on aurait eu une meilleure game, mais... Pour vrai, c'est imbattable, là, Mahomes en série. C'est vraiment beau à voir de son côté. Là, puis très content pour les Chiefs. On sait qu'ils ont eu des années de misère là,
ouais.
Avant cette quasiment dynastie. J'allais dire dynastie, mais c'est pas.
Si les Chiefs gagnent le Super Bowl,
ouais, ça va être
pour vrai,
une dynastie,
un troisième Super Bowl en 6 ans, en 7 ans depuis que Mahomes est là.
Exact. Non, ça c'est une dynastie. Là, ça, c'est incroyable. Il a été repêché en 2017, je pense, pas de Mahomes. Ouais. Donc.
Puis il a été partant, je pense, à partir de 2018, quelque chose.
Ça avait tellement quoi faire pour gagner. On parle d'expérience. Des fois, on dit l'expérience comme si c'est une excuse pour dire qu'une équipe est bonne. Mais honnêtement, l'expérience d'un chief est vraiment là. T'sais, les gars, ils savent quoi faire. Hey, marquer 17 points puis gagner un match.
Gagner pareil.
C'est quelque chose pareil, là. Je veux dire, c'est tous des gros jeux au bon moment. Ils ont été chanceux contre les Bills de s'en sortir, mais pour le reste. Ils ont montré qu'à la demi-finale, ils ont limité Lamar Jackson. Puis ça, il n'y a pas grandes équipes qui l'ont fait cette saison. Rappelez-vous, les Ravens ont dominé les 49ers cette saison. Ils ont battu par plus que deux possessions, là, par 14 points. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui a battu les 49ers de ce score-là. Donc, les Ravens, c'est une grosse équipe, là, justement, en arrivant à ce match-là. Les Chiefs, ils ont battu, puis ils ont très bien fait, d'ailleurs. Moi, je pense que les Ravens ont eu la difficulté. Le match aurait pu tourner. On parle du toucher qui a été manqué par Flowers, mais... Honnêtement, c'est props aux Chiefs.
Ouais, tout à fait. Une victoire très méritée. Puis justement, là, les Chiefs s'en vont jouer contre les 49ers de San Francisco. Donc, les 49ers, avec la défaite des Ravens, tombent quand même un peu favoris, là, j'ai l'impression, pour le Super Bowl. Là, si on regarde l'affiche en saison régulière. Mais sur papier, oui, c'est sûr. Peut-être que les 49ers sont une équipe plus complète. Mais encore là, il y a l'aspect, comme Félix disait, expérience en série, que Patrick Mahomes, Travis Kelce et que toute l'équipe des Chiefs, les joueurs qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, là, ils savent c'est quoi se rendre loin en série.
Le fait aussi que les 49ers, ils nous ont habitués à excusez-moi le terme, mais à choquer.
Ouais,
au
mauvais moment.
Ouais, c'est ça. Puis on pensait toujours qu'il y avait des bonnes équipes. Finalement, ils se rendaient pas trop loin. Quand ils se sont rendus au Super Bowl, justement, contre les Chiefs.
En
2020. Début 2020.
Ouais.
Ils ont perdu. Fait que, ça donne un avant-goût quand même, les formations qui se ressemblaient peut-être pas autant, mais moi j'aurais vraiment aimé ça voir les Lions, mais on va en reparler, je pense.
C'est clair. Vas-y, Félix.
Honnêtement, je pense pas que les 49ers sont favoris, mais je pense pas pour vrai. Moi, dans mon livre à moi, les Chiefs remportent ce match-là. Brock Purdy, je peux pas y faire confiance.
Pourtant, il a vraiment mené son équipe à une remontée contre les Lions, là.
Moi, honnêtement, je sais pas. C'est un carrière-là a des bonnes armes. C'est pas un gars exceptionnel, mais j'ai l'impression que vraiment, il manque quelque chose dans ce carrière-là. Pourtant, il a très bien joué, là. Il a fait des grosses courses, il a acheté les premiers jeux par lui-même. J'ai pas confiance à ce gars-là. S'il y a un joueur qui peut changer le match, c'est Christian McCaffrey, parce qu'il est tellement gros, tellement dominant, il passe au travail de tout le monde. Mais pour le reste, je pense que les Chiefs ont, contre les Lions, auraient gagné, puis contre les Foyaners aussi, ils vont gagner. Je pense que ça après juste cette victoire-là. Je pense que c'est le plus gros match, c'était Ravens-Chiefs. Les Chiefs, ils ont battu à la soirée. Je pense qu'il n'y a plus rien qui peut les arrêter, là. Puis, on était déjà, on est allé d'entendre parler de Taylor Swift, mais il va falloir encore en entendre parler parce que,
je vous dis, il va falloir tolérer ça pour parler encore.
C'est pas long d'arrêter.
Encore deux semaines, là.
Puis, je sais pas si vous avez vu, mais les sites de Paris Sportifs ont déjà sorti les cotes. Est-ce que Travis Kelce va demander à mariage Taylor Swift?
Là,
ça arrêtera plus, les gars. Je vous le dis, on est pris là-dedans. On est pris dans la Matrix.
Mais justement, Brock Purdy, j'ai envie de t'entendre là-dessus, Antoine, parce que, c'est quoi, c'est Mr. Irrelevant son surnom,
ouais,
là?
Mr.
Dernier show au total au repêchage 2018.
Ouais.
Puis premier de la cuvée à atteindre le Super Bowl.
Ouais,
c'est ça que j'avais vu comme statistique.
Non, c'est 2018, c'est Sam Darnold. Donc Brock Purdy, il était repêché en 2019-2020. Parce que dans le fond, la blague, c'est que Sam Darnold était supposé être un des meilleurs carrières de la cuvée 2018.
Ouais.
Puis c'est le backup à Brock Purdy.
Ah, fait
que le monde, ils ont dit, il est meilleur qu'Allen, il est meilleur que Lamar Jackson. Mais finalement, c'est Darnold qui y va. Mais pour vrai, Purdy, là, il y a beaucoup de monde qui parle de ça, justement, aux États-Unis, là, de ce temps-ci. C'est un game manager qu'il appelle. Dans le fond, lui, il va tout le temps gérer le match. C'est pas lui qui va faire le jeu explosif qui va te permettre de gagner.
Ça va être McCaffrey.
Ouais, c'est ça, mais c'est lui qui fera pas l'erreur qui va te faire perdre. Fait qu'il va toujours se gager.
Un corps arrière correct sans plus.
Exact, c'est toujours lui qui va se gager dans le milieu, puis tu sais toujours à quoi t'attendre. Tu sais toujours qu'il va te sortir, mettons, une à deux passes de toucher par match avec au moins 200-250 verges de par la passe. Mais tu sais, il n'ira jamais taper le 300 cake, puis il fera jamais 4 touchés par la passe, on s'entend.
Ouais.
Mais c'est un game manager. Je suis quand même d'accord avec ce statement-là.
Et là, je veux qu'on parle quand même un peu du match contre les Lions. Là.
Ouais.
Qu'est-ce que fait la différence pour que les 49ers l'emportent?
Le momentum, Charles. Le momentum. C'est fou. Les Lions, ils l'avaient à la game.
Ouais.
Les Lions avaient le match. T'arrives pour, bon, la situation où ils étaient avant mi-temps. T'es sur un quatrième essai. Toute l'année, ils l'ont essayé.
Ouais.
Toute l'année, ils l'ont essayé. Puis on sait, l'entraîneur-chef...
Dan Campbell,
exact. Toujours, il va toujours. On l'a vu contre les Cowboys à la fin de l'année. Oui, les Lions, t'as déjà assuré d'avoir une place en série éliminatoire. Et pareil, à la fin du match, il va sur 4e essai. Il y a un flag qui est lancé. Il retourne sur 4e essai. Puis finalement, il retourne encore. Il l'a pas. Il perd le match, mais il s'en foutait. T'es déjà qualifié. Là, tu mènes par deux possessions. T'as la chance d'aller sur un 4e essai juste avant la mi-temps. Si tu mets ton 4e essai, tu mènes par trois possessions. Le match est pas pareil. Pas en tout. Ils ont mis le 3 points. Qu'est-ce correct? C'est ça. Ils ont joué le jeu safe. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que après ça, tu vas pas sur ton 4e essai quand tu vas sur ton 4e essai justement quand t'as la chance.
Ils l'ont fait deux fois après.
Ils l'ont fait
je
deux
pense
fois
dans
en
match.
Temps. C'est un parieur, il prend des risques, ça va payer, mais je pense vraiment que c'est juste une question de momentum. Parce que si tu mets trois possessions aux 49ers, mais par la suite, quand même que les 49ers se mettent un toucher, tu mets encore deux possessions, puis tu reprends la balle, puis t'as quand même un bon effectif pour aller mettre un autre toucher ou mettre trois points. Ça a vraiment tué le match, mais c'est un match de momentum, puis les partisans l'ont senti, ils étaient dedans, puis ben là, ça a commencé, petite erreur, bon, on échappe le ballon, on s'est marqué après toucher, ça a tué, puis honnêtement, les Lions étaient dans ce match-là, ils gagnaient, puis ils auraient gagné ce match-là, c'est une petite erreur, je pense que, aller sur le 4e essai, moi je l'aurais essayé, t'avais rien à perdre, en même temps, je suis pas entraîneur, puis je pense que je serais pas allé non plus sur le 4e essai à la fin du match, quand que c'est le temps de l'essayer, c'est un pari que tu dois prendre. Puis, honnêtement, Dan Campbell, ben, c'est Dan Campbell, là, c'est un coach qui fait toujours ça. Puis, c'est genre le gars qui pige un 18 au Blackjack, puis il repige une autre carte pour avoir 21, tu sais, c'est. Ça a pas d'allure.
L'affaire, c'est que. Tu sais, il a voulu rester honnête avec lui-même, puis en se disant.
Fidèle à ses principes.
Ouais, on s'est rendu à la finale de la nationale avec ces techniques-là, en y allant sur 4e essai. Il a voulu y aller à chaque fois. Mais en même temps, en série, là, il y a tellement aucune occasion de faire des points qu'à chaque fois, il faut que tu prennes les points. Il n'y a pas le choix.
Ouais.
Puis, tu sais, ça fait cliché à dire, ils ont perdu par trois, ils auraient dû faire le field goal. Mais c'est un peu la vérité. Ouais. Tu sais, il faut que tu prennes le placement, il faut que tu prennes les points à ce point-là parce que tu sais jamais quand ils vont revenir.
Puis
tu sais
à mi-temps, tu le fais-tu, toi, la quatrième tentative, le quatrième essai ou tu le fais pas?
Mais c'était ça en position de placement, je me souviens pas. Là.
C'était à zone début. Là.
Mais puis ils ont fait un placement à la place.
Ouais, ils ont fait un placement
à la fin de match. Je serais allé pour le quatrième essai touché.
Moi, avec. À mi-temps, je serais allé. Mais en fin de match, je peux pas y aller. Tu peux pas faire une erreur comme ça.
En fin de match, il faut que tu y ailles pour le placement. Parce qu'il faut que tu ailles chercher le maximum de points possible.
Exact. Puis en plus, on a vu par la suite, ils ont fait un touché, mais c'était trop tard.
Ouais, c'est ça, exact.
Donc, honnêtement, il y avait le temps encore. Mais on saura jamais, puis. Avec ma belle histoire, celle de Détroit, puis moi, c'est un peu l'équipe pour laquelle je votais. On aime toujours voter pour les underdogs.
Ouais.
Puis, moi, si je pense que c'est juste triste, là. J'ai vu un peu ce qui se passait aussi à la Détroit. Il y avait tellement de personnes qui étaient là pour écouter le match sur un écran géant. Perdre comme ça, tu sais, c'est plate en même temps. Tu l'as dit, Antoine, c'est l'essence même du club. C'est ce qu'ils ont fait toute la saison. Honnêtement, être un passant des Lions, j'ai de la misère à dormir pour les quatre prochaines semaines.
Ce qui est embêtant, c'est. Les gars, vous avez mentionné l'expérience des Chiefs. On s'entend que les Lions, il n'y avait aucune expérience.
Ouais.
C'était Jared Goff qui est allé à un Super Bowl avec les Rams. Mais Dan Campbell n'a jamais coaché à ce niveau-là en série de sa carrière. Fait que la quote là, en anglais, c'est « act like you've been there ». Ouais. Les Lions, s'étaient jamais rendus là. Fait qu'ils ne savaient pas comment agir. Tu comprends? Il y avait ce manque d'expérience-là flagrant. Puis ça leur a coûté finalement une participation au Super Bowl. Puis Dan Campbell, il a mentionné, si ça se peut que c'était notre dernière chance de se rendre là.
Ben, c'est qu'il y a 32 équipes, puis il y en a juste deux qui vont au Super Bowl année après année, là. Puis les Lions ont eu la chance d'être dans les quatre dernières.
Ouais.
C'était quand même une surprise cette année.
Ouais.
Fait que là, j'ai hâte de voir les décisions qui vont être prises là, par l'organisation pendant l'été, à voir à quel point on va essayer de retourner là l'année prochaine.
On a vraiment bien repêché là, avec un gars comme Jack Campbell en défensive, Gibbs, le porteur de ballon. T'sais, ça, c'est des choix de cette année, avec Laporta en plus, sans le mentionner. Puis j'ai vraiment confiance au DG des Lions.
Ouais.
Il va falloir qu'il y ait un petit changement de culture. Là. Il va falloir que ce cheminement-là en série se fasse sentir pour les années futures.
Ben moi, j'ai pas de problème avec ça, le fait d'aller sur un quatrième essai pis de risquer. Mais en série éliminatoire, là, faut que tu chantes. Mais là, tu veux une erreur, tu sais, la vie, c'est des erreurs, t'apprennes à tes erreurs, ils l'ont appris. Mm-hmm. S'ils retournent là, c'est sûr qu'ils font plus cette erreur-là. Mais honnêtement, au football, c'est pas très long. Partir d'une reconstruction, d'avoir une équipe gagnante. Les Lions l'ont bien démontré.
Ouais.
C'était pas très bon, là, des dernières années, pis là, ils sont revenus au top. Je pense l'année prochaine, encore une fois, c'est une équipe qui se qualifie en série.
Ah, c'est une bonne équipe.
Tu sais, t'as encore des gars comme Sam Brown, Amon-Ra St. Brown, Jammer Gibbs, ça m'a mentionné, Montgomery aussi. Pis Goff a quand même joué du bon foot. Je pense que vraiment, les Lions s'en retournent. S'en retournent peut-être pas en finale d'association, mais ça reste qu'ils passent le premier tour assurément.
Puis, tu sais, dans leur division, tu sais, t'as les Bears qui sont pas très bons. Fait que ça va peut-être leur donner une chance de faire encore un bon plan, un bon classement.
C'est vrai. Les Bears, d'ailleurs, ils vont repêcher qui? Personne.
On va voir. On va commencer à parler plus du repêchage de la NFL quand tout ça va être terminé. Donc, en terminant, là, je veux qu'on parle un peu de hockey avant d'accueillir Charles Leblanc en studio. Mais avant de passer au hockey, rapidement, prédiction Super Bowl.
Moi, je vais y aller avec les 49ers. Je sens que les Chiefs vont gagner, mais j'irai pour les 49ers avec genre un 10 points d'écart. Là.
OK.
Ouais, j'aime, tu sais, je leur fais pas tant confiance que ça, mais j'aime pas les.
Ouais, tu vas parier 49ers moins 9.5.
Je sais pas. C'est ça la.
Non,
oui, le spread, ouais.
Ah, tu vas aller.
Non, c'est ça, mais j'aime pas assez les Chiefs pour prendre pour eux.
J'aime pas les Chiefs non plus, puis j'étais curieux les voir gagner, ils gagnent tout le temps.
Ça reste c'est un peu les nouveaux Patriotes, là.
Ouais. Mais ça reste que les Chiefs vont gagner pareil. La game, ça c'était un match test, là. S'ils remportaient ce match-là, ils gagnaient le Super Bowl. Puis là, ils l'ont remporté, ils vont l'emporter. J'aime pas ça dire ça, puis ça me fait pas plaisir. Mais c'est malheureusement ça qui va arriver. Puis Pat Mahomes a pas joué du gros foot depuis le début de l'année. Dans l'année en général, Pat Mahomes joue pas du gros foot. Il suffit d'un match.
Ah,
un seul match.
Oh oui,
là, ça, il est rendu là.
Hey, il te fait un gros match. À la fin du match, il a fait une longue passe. Quasiment un Hail Mary. Ça les a mis à bouche up. En fait, le match était sérieux. Ça a tué le match. Il va sortir un gros match en finale, peu importe. Même s'il n'en sort pas un gros, la défense va être là. Il gagne pareil.
Ah, je suis d'accord.
Tout est sur la table pour qu'il gagne. Taylor Swift va être là. Le frère de Kelsey va être là.
Ouais. Non, mais c'est ça. Peut-être les Chiefs là, rendus en série, puis rendus. Je dis pas comme au premier tour ou dans les matchs avant, mais là, Patrick Mahomes, nous a prouvé qu'il était là en série pour gagner cette année. Puis quand ce gars-là est performant en série, t'as-tu renversé de l'eau à terre?
Non.
Quand ce gars-là est performant en série, je pense qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter.
Non, c'est ça, exact.
Puis, tu sais, on le mentionnait, oui, la défense des 49ers est solide, mais Brock Purdy à l'attaque, ça prend une performance exceptionnelle d'un corps arrière pour porter son équipe au Super Bowl. Là.
Ouais, mais pour gagner le Super Bowl, pas nécessairement. C'est un collectif. Ouais. Je veux dire, si McAfee décide de prendre la balle puis de courir sur faire 100 verges de course dans la game, il va gagner la game à lui seul, tu comprends? Ouais. C'est pas nécessairement. Mais c'est ça, comme t'as dit, Purdy, c'est un game management. Tu sais, Purdy a fait une passe de toucher, je pense, lors du dernier match. Mais McAfee veut trop toucher, mais ça reste que c'est Purdy qui a amené son équipe proche, puis McAfee prenait le ballon, puis courait, rentrait dans tout le monde, puis même personne peut le plaquer.
Mais ouais. L'affaire aussi, là, les gars, c'est t'sais, les Chiefs, ils ont gagné l'année passée.
Ouais.
T'sais, c'est tellement de l'expérience qui vaut cher, ça, là. Ça a pas de bon sens, là.
Ouais. C'est vrai. Non, je comprends, mais en même temps, crime, ça serait le fun d'avoir gagné d'autres équipes un peu, là.
Ouais, vraiment.
Puis les 49ers, je pense que c'est 94 leur dernier Super Bowl.
Ouais. Les années, les belles années des 49ers, Steve Young, Joe Montana.
Ouais, c'est, ils ont perdu en finale genre en 2011, je pense, puis en 2019.
Ouais, si l'année Arba.
Donc, je leur souhaite les 49ers, mais malheureusement, je pense, malheureusement pour le monde football, je pense vraiment que les Chiefs vont gagner. Ouais. Dans deux semaines, et on aura
probablement. Ça va être la folie furieuse, là. Taylor Swift, elle va tellement amener beaucoup de fans, ça va pas
te c'est l'enfer, là. On sait que le match du Super Bowl, c'est probablement l'événement sportif le plus c'est l'événement sportif le plus regardé dans le monde. Donc là, t'ajoutes Taylor Swift.
La finale de la Coupe du Monde, c'est plus de personnes qui.
Par année, mettons.
Ouais, la finale de la Coupe du Monde, il y a plus de monde qui que ça.
Mais encore là.
Je comprends ce que tu veux dire.
Ouais, t'as Taylor Swift qui a amené tellement de partisans, là. Fait qu'en tout cas, on va voir. On risque d'en reparler peut-être la semaine prochaine. Là, on va voir qui on aura avec nous. Je veux qu'on parle rapidement de la Ligue nationale de hockey parce qu'on est pas mal à la pause du match des étoiles. Je sais pas si... je pense qu'il reste quelques matchs à soir.
Ouais.
Puis après ça...
d'autres demain aussi.
Ouais, d'autres demain. Un jeudi. Ah, ok, non. Hein? C'est pas un King... Team
non,
King.
Non, ça vaut au son.
Ça, ça n'a pas rapport. Puis ensuite, c'est ça, la fin de semaine du match des étoiles. Donc, pour plusieurs équipes, la pause du match des étoiles, c'est comme un peu un baromètre. T'es pour voir quelle équipe est rendue où dans la saison, quelle équipe va être acheteuse à la date limite des transactions, quelle équipe va être vendeuse. Et là, je regarde le portrait des deux associations. Puis pour vrai, là, je pense pas vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer énormément. À moins que les Penguins de Pittsburgh se déniaisent ou que les Islanders de New York soient vraiment genre chamboulés par l'arrivée de Patrick Roy ou peut-être que les Devils sortent un lapin de leur chapeau.
En ce moment, c'est qui, mettons, au 7 puis 8e?
Toronto à 58, qui est le meilleur 4e as. Après ça, t'as Détroit qui serait également qualifié à 57. Puis après ça, t'as quand même un 5 points d'écart après. Pour les Islanders de New York. Puis t'as les Islanders à 52.
Son 9e dans le fond.
Ouais, exactement. T'as les Islanders à 52. Puis ensuite, t'as Pittsburgh, New Jersey, puis Washington à 51.
Ah, ça, Pittsburgh, moi, je leur fais pas confiance. Cette année, je trouve qu'ils ont perdu leur magie un peu. Ouais. Les Islanders, il y a du travail à faire, là, tu sais. Ouais. Ben beau patrois, mais à quel point ça va changer, je sais pas. Mais on voit que l'attitude de l'équipe a changé grandement.
Ouais.
On voit que sa glace a changé aussi, mais tu sais. Ça se peut que ça prenne un peu plus de temps à coller, mais pourrait Washington non plus.
Non, Washington, je les vois vraiment pas en série non plus.
Ben ouais, moi, je les vois en série quand même. Carl Dubas va faire du Carl Dubas, tu le connais.
Ouais, mais ils ont plus de monnaie d'échange.
Non, ils ont plus de monnaie d'échange, puis ils ont plus de place sur le cap.
Puis ils ont des jeunes, tu peux changer un pick ou whatever.
Des jeunes qui ont repêché en troisième ronde il y a deux ans.
Ouais, t'en as, tu sais, les jeunes, ça vaut quand même de quoi, puis le choix de repêchage, ça vaut quelque chose aussi, mais ça a toujours été sa mentalité de tout sacrifié pour une équipe gagnante. Puis honnêtement, ils ont déjà quand même un bon effectif. Tu sais, ils ont un meilleur effectif les Islanders de loin. Là. Je pense qu'ils peuvent se qualifier pour aller chercher un spot en série. Parce que Détroit, c'est pas les gros chars, là. Excusez-moi l'expression, mais c'est une équipe qui tient à une ligne. Là.
Ouais.
Une ligne d'attaque, puis une ligne de défense, puis un avantage numérique, c'est pas mal tout. Là.
Ouais.
Mais je sais pas, honnêtement, je pense que les Maple Leafs vont réussir à se qualifier. Ça, c'est certain.
Ouais, ils vont finir par.
Mais à l'Est, c'est quand même serré, mais.
Fait que dans l'Atlantique, c'est qui? C'est les Panthers qui sont là?
C'est les Panthers, le Lightning, puis les Blues. C'est
ça. Ben, même malgré que. Les Devils pourraient potentiellement acheter une place éliminatoire, mais c'est que.
Les Devils, au début de la saison, je les voyais quasiment premiers dans le métro.
Ouais, mais Jack Hughes est blessé, ça vient un peu de nœud, mais.
C'est ça.
Fait pas le match des étoiles, mais s'il revient après le match des étoiles, peut-être en mesure de faire un dernier petit push pour les séries. Mais s'il revient pas avant mars, là, quand on va aller voir jouer le 23 mars, c'est fini, là.
Ouais, right. Ben pour vrai, moi, s'il y a une équipe que je vois faire les séries puis remplacer les Red Wings de Détroit, c'est les Devils. Parce que pour vrai, là, les.
Mais les Devils sans Jack Hughes, non.
Ouais, que... ben c'est ça, ça, ah, ça c'est dépend vraiment de l'état de sens. Faut que Jack Hughes soit là. Puis si jamais Jack Hughes est pas là, ben une équipe que j'aurais peut-être dépassé, les Red Wings et les Islanders de New York, mais encore là, ça va être compliqué parce qu'en plus.
Juste vu que t'aimes Patrick Roy que tu dis ça, mais.
Ouais, mais.
Honnêtement. Ouais.
Mais t'es un changement d'air, on sait jamais ce que ça peut amener une équipe. Là, on
ouais,
l'a vu avec
un changement d'air, il va pas très bien, là, juste une victoire.
Je dirais ouais, que. Ouais, mais ça prend du temps à mettre en place, là, une bonne équipe de hockey.
Ben. Ouais, oui et non, là. Jacques Martin,
il.
Ça a pris du temps, là. Ils ont gagné 4 des 6 derniers matchs, mais tu regardes les statistiques, c'est l'équipe qui accorde le plus de buts en sommet. Avec. T'sais, je veux dire, l'impact d'habitude se fait rapidement. À quel point les Islanders peuvent revenir, ils n'ont pas nécessairement un gros effectif. Ouais. Honnêtement, je te dirais que les Penguins ont la meilleure équipe de ces trois-là et ont l'expérience, des gars comme Crosby et tout. C'est sûr que Crosby va aller en série, Carson aussi.
Ah, mais ils sont pas allés l'année passée.
Ouais, mais ils ont perdu contre les Blackhawks, si, ils se devaient d'y aller.
S'ils si font, par contre, ça va être une ronde. C'est ça,
ben, c'est sûr, là, parce qu'ils vont arriver.
Ouais, non, c'est sûr, là. L'Est est beaucoup trop forte, là.
C'est vrai que les Flyers sont quand même atteignables au troisième rang de la métro, là, mais ça va être soit Caroline, soit Rangers en première ronde.
Non, c'est ça, puis les Rangers,
ou,
moi,
ou les Blues.
J'les aime vraiment, ils sont trop forts. Là.
Ouais. Donc, vraiment hâte de voir pour le portrait de l'Est, puis rapidement, l'Ouest, c'est encore très, très, très serré. Mais les équipes qui sont sur le bord de rentrer en série, on dirait que... ça m'intéresse moyen des voir en série. Là.
C'est qui?
Les Predators. Mettons, là, présentement, t'as les Kings de Los Angeles et ouais. Les Blues de Saint-Louis qui sont les deux quatrièmes.
Jamais les Blues restent là.
T'es les Blues jamais pourraient les Blues se faire tasser. J'aimerais que ce soit peut-être par le Kraken, mais sinon les Predators, moyen. Les Coyotes, moyen. Les Flames, moyen.
Les Coyotes, ça serait vraiment cool.
Ben, ça serait le fun pour eux.
Ouais, mais tu vois-tu des matchs, toi? Dans une arena de 5000 places en série.
Ah non, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon
oublie ça. Je veux absolument pas voir ça.
Les Blues, c'est impossible de gagner sa série dans toi. Je te garantis que les Blues, c'est ça.
Mais tu sais, t'aimes-tu mieux voir les Blues ou les Preds?
Tu sais, rendu là, ça m'est égal.
Non, ben, moi, ça va être le Kraken. Je pense que j'aimerais bien mieux voir le Kraken.
Ouais, le Kraken, ouais. Ça serait cool à voir aussi. Mais tu sais, en même temps, hein, moi, pour vrai, ces équipes-là, comme dirait Charles, ça me fait ni chaud ni froid.
Mais l'Ouest, c'est tellement mauvais. Là.
Ouais.
Fou comme à l'Ouest, c'est poche.
Ou imagine. Marc-André Fleury amène le Wild en série.
Non, c'est ça.
Le Wild, au début, c'était tellement mal commencé.
Son dôme est fort, tu sais, ouais. avec John Hines.
Ouais, mais ils ont 5 points. Ils ont 7 points de retard sur les
points.
C'est quand même très loin. Puis, c'est dur à rattraper, le rendu où on est dans l'année.
Ouais,
là.
Vraiment.
Puis on s'approche de plus en plus de la date limite des échanges. Donc, c'est vraiment là qu'on sépare les hommes des enfants dans la LNH.
Bien dit.
Donc là, on a reçu notre invité en studio qui est arrivé. Donc, sans plus attendre, on va aller en pause publicitaire. Et après la pause, ben, restez là parce que Charles Leblanc est avec nous pour parler de basketball.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, arts visuels et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Va te prendre une autre bière, Jacques.
Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Chiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanick en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, Puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Chiz, 94.3.
En Moukaosit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est là-bas!
Les Remparts de Québec reçoivent les Olympiques de Gatineau ce mercredi 31 janvier à 19h. Rick Luthier vous attend dès 18h45 pour son habituel avant-match. Remparts Olympiques, mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. On est bien en studio, les boss à la table. Ah ouais, moi la joie. Donc, avant la pause, on a parlé de football et de hockey. Si vous avez manqué là cette partie de l'émission, là, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook, sur Instagram. Également, là, les rediffusions vont être disponibles un peu plus tard cette semaine. Donc, soyez à l'affût de notre Spotify et notre Apple Podcast pour réécouter l'émission. Et un segment que vous voulez absolument pas manquer, ben c'est celui qu'on fait à l'instant avec Charles Leblanc qui est de retour à Boisvert Radio, que vous connaissez peut-être là, de conduite antisportive. Salut mon Charles, ça va bien?
Ça va bien toi, mon deuxième match en carrière. Toujours un plaisir de revenir à Boisvert Radio.
Ouais, mais ça avait été dommage la première fois parce qu'on avait parlé quand même beaucoup de hockey, puis on avait tellement débordé qu'on avait comme parlé 10 minutes de basket. Donc on sait à quel point là, t'es passionné de basket et tu te connais. Donc c'est quasiment, je pense, la première fois de l'année qu'on va parler de basket à Boisvert ouais. Radio. Et pour vrai, là, on s'en est quand même passé pas mal d'affaires là, dans le basket dans les derniers jours, dernières semaines. J'ai envie de commencer la discussion là en parlant des Raptors de Toronto. Ça te convient? On a quand même échangé deux gros morceaux, là, OG Anunoby et Pascal Siakam dans les derniers jours. Comment est-ce que tu vois cette saison-là des Raptors qui ça va pas trop bien?
Ouais, ça va pas super bien. Écoute, comme tu l'as dit, là, ça a bougé dans NBA, puis ça a surtout bougé à Toronto.
Ouais.
Deux gros échanges, les vétérans partent.
Pour faire de la place aux jeunes.
Ouais, c'est ça. Honnêtement, si on peut avoir un comparatif avec le hockey, ça ressemble un peu à la situation du Canadien où est-ce qu'on est en reconstruction. Les Raptors, en ce moment, c'est une victoire à leurs 10 derniers matchs. Ça va pas, ça va pas être... ça sent pas la coupe, là, à Toronto. Deux gros échanges. Le premier avec Anunoby, personnellement, je l'aime bien. Vas chercher RJ Barrett, un Canadien qui a 23 ou 24 ans. Emmanuel Quickley, lui aussi 23 ou 24 ans. L'un a 23, l'autre a 24.
Des bons jeunes.
Ouais, exact. Puis qui avait un peu de la misère à s'établir à New York. Je pense qu'à Toronto, ils vont avoir l'occasion de s'épanouir.
Est-ce que ça va bien pour l'instant, là, les deux?
Oui. Là, Quickley s'est blessé, mais ça allait bien avant. À New York, il y avait Jalen Brunson qui occupait le rôle de monteur partant. Puis là, à Toronto, il peut prendre le poste. Du côté de Siakam, par contre, puis en plus, pour les données, ben, tu donnes Anunoby. Ça, je pense que c'est une très bonne prise pour New York. Par contre, là, ça va les aider beaucoup. Mais à part ça, tu donnes d'autres joueurs de profondeur là, que tu vas pas vraiment...
Ils sont pas très importants.
C'est ça. Là, tu vas pas les manquer. Par contre, du côté de Siakam, tu donnes ton joueur de franchise qui a 28 ans.
Jeune, quand même.
Ben, c'est ça. Il fitait pas tant le timeline, si on veut, avec Scotty Barnes et les jeunes que tu venais d'avoir de New York. Mais 28 ans, on le sait, c'est pas si vieux que ça.
Ouais.
Des bons vétérans pour aider les jeunes. Puis tu vas rechercher trois choix de première ronde. Puis Bruce Brown... Écoute, Bruce Brown, j'ai rien contre lui, c'est un bon joueur, il va faire la job, là, mais ça transforme pas une équipe. Trois choix de première ronde, tu sais, au hockey, il y a 7 rondes dans le repêchage. Ouais. Au basket, il y en a 2. C'est pas. Tu sais, Indiana va être bon, ça va être des choix qui vont être loin. Ouais,
ça vaut pas si cher que ça.
Non, c'est ça, c'est pas la même valeur que ce que tu peux avoir pour un Monahan, mettons, là, tu sais.
Ouais.
Au basket, tu le sais tout de suite. Il y en a des joueurs là que justement, Siakam, il a passé par la G League.
Leur développement, il est déjà fait au basket.
C'est ça, mais la plupart des bons joueurs, tu le sais en entrant qu'ils vont être bons. Donc, honnêtement, ce move-là, pas que je le comprends pas, on le voyait arriver, ça faisait longtemps.
Ouais.
Mais je pense qu'il aurait dû le faire avant. Puis le DG a expliqué sa décision avec l'incertitude de Siakam qui re-signe à Toronto.
Ouais, c'est ça, j'avais demandé. Tu sais. Dans tous les cas, probablement que tu l'aurais perdu cet été parce que ben il aurait probablement voulu explorer le marché des agents libres. Donc c'était pas mieux justement de laisser partir là. Parce que moi, honnêtement, ce que je pensais, c'est que peut-être les Raptors allaient pas avoir grand chose pour lui, dans le sens que tu sais, ils ont pas eu grand chose, mais quand même deux sur première ronde, t'sais, moi je pense que c'est quand même bien là, pour un joueur qui n'avait peut-être pas signé.
Ils ont probablement eu le plus qu'ils pouvaient avoir à ce moment-ci. Il est probable que s'il avait échangé l'année dernière, il y aurait eu encore plus. Puis s'il avait échangé tout de suite après la bulle à Orlando, là, il y aurait eu vraiment beaucoup.
Ouais.
Mais ça aurait été un move, tu sais, qui aurait passé. Je sais pas si ça aurait tant passé avec les partisans.
Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas où on était rendu aujourd'hui.
C'est
là,
ça, dans la reconstruction dans tous les cas.
C'est ça, mais on pouvait le voir venir. On a perdu Van Vliet pour rien. Mais ça aurait été, tu sais, peut-être précipité, mais en même temps, t'aurais ta reconstruction que finalement tu fais aurait peut-être été plus entamée. Mais bon. Puis Siakam, tu sais, oui, il aurait, avec tout ce qui s'est passé, il aurait peut-être pas signé. Mais je sais pas si vous avez probablement pas, là, mais Siakam a écrit dans le Players Tribute un très beau texte, une lettre d'amour à Toronto puis aux partisans. Honnêtement, avec tu l'as fait sur les réseaux sociaux, Charles, tu as dit que j'étais avec Alley-Oop. J'écris des articles sur le basket, très rarement ému en écrivant un texte. Là, on fait les nouvelles. Mais là, c'était beau avoir un joueur qui aime autant la ville qu'il a repêché. Tu lis ça, tu dis, ouais, ben honnêtement, tu sais... S'il avait bien traité ou s'il n'y avait pas eu des rumeurs dans les dernières années, il aurait probablement signé.
Ouais.
T'aurais eu Siakam, 28 ans, Scottie Barnes, beaucoup plus jeune, mais les deux ensemble. En tout cas, personnellement, c'est un move qui passe un peu moins bien que celui d'Anunoby, mais.
Mais au moins, il aurait réussi à avoir quelque chose.
Exact.
Si on l'avait perdu aux agents libres.
Mais, tu sais, rendu là, si tu t'établis comme une équipe en reconstruction, t'as pas vraiment le choix de te départir de tes joueurs.
D'impact.
Ouais.
C'est ça que je me dis, dans le sens que, oui, c'est un téléphone qui reste là, mais tu peux pas le ligoter à Toronto, sachant que l'équipe va nulle part, puis qu'elle est un peu milieu de tableau et tout. Soit tu y vas en ligne pour essayer d'améliorer ton équipe le plus possible, ou ben, tu te débarrasses de ce joueur-là, puis je pense que, ben oui, on a s'en débarrasser avant, mais ça reste que Pascal Siakam, c'est quand même le genre de joueur que tu peux charger et avoir quand même un bon retour. Je pense que c'est le mot à faire s'en débarrasser, mais le timing, comme tu dis, peut-être pas le meilleur.
Ouais, puis ce qui est un peu contradictoire, c'est que là, ce qu'il aurait besoin pour améliorer leur équipe, c'est un joueur comme Pascal Siakam, mais plus jeune, pour justement être plus aligné avec l'âge de leurs jeunes joueurs. Mais tu sais, là, ils ont beaucoup de guards d'arrière. Il y aurait besoin là, de joueurs qui jouent dans la clé. Ils ont Jakob Poeltl, qui a le même âge que Siakam. Ils ont grandi ensemble dans l'organisation, 28 ans. T'es allé le chercher justement avec un échange. Ça aussi, c'est un. Là, tu laisses partir Siakam, mais t'es allé chercher un joueur du même âge l'année dernière. En tout cas, c'est un peu questionnable, mais oui, écoute, là, en reconstruction, c'est ça. C'est clairement aligné en reconstruction, puis on va voir ce que ça donne.
Mettons que Siakam ne re-signe pas en Indiana puis devient joueur autonome, penses-tu qu'il y a des chances de retourner à Toronto après?
Non, je pense pas.
Je pense qu'il y a une garantie qu'il allait signer vu qu'ils l'ont échangé le coup.
Ouais, je pense qu'il y a des bonnes chances de signer là. Il pourrait signer ailleurs, mais je pense pas à Toronto. Là. Je pense qu'il a tourné la page, puis il va vouloir aller dans une équipe qui peut gagner maintenant. Là.
Ouais, puis c'est un gros ajout pour Indiana aussi. Désolé, Charles, je t'ai coupé, mais.
Ouais, mon.
Arrêtez-vous, les gars.
Non, j'allais juste dire que, tu sais, il veut signer dans une équipe qui va gagner maintenant, puis aussi, genre, dans les 2-3 prochaines années. Là.
Ouais.
Fait que les Raptors sont pas encore là dans leur processus de reconstruction. Là.
Non, pas encore. Ils sont. Avec Siakam, ils sont peut-être pas si loin. Mais non, je pense pas encore là. Tu sais, peut-être un 4-5 ans là, avant qu'il soit bon. Là.
Ah ouais, hein?
Ça va être long à Toronto.
Ouais, c'est...
Mais j'ai l'impression que les partisans de Toronto, il n'y aura pas d'aréna vide. Là. Tu me trompes-tu?
Non, ben là, ça commence à chioler un peu. Ils ont monté les prix des billets beaucoup. Okay. Un peu le même phénomène qu'avec les Canadiens. Ouais. Là, on en entend parler beaucoup.
Mais c'est ils vont se vendre pareil maintenant.
Ouais, c'est ça. Là, on a des partisans vraiment fidèles. C'est parmi les meilleurs de la ligue. je parle, tu sais, 4-5 ans, ça dépend aussi de Scottie Barnes, qui connaît une excellente saison. Finalement, il fera pas le match des étoiles, mais il avait commencé en force au début de la saison. Je pense qu'il y a 22 ans. S'il avait continué sur le même rythme, c'est sûr qu'il faisait le match des étoiles. Là, il a ralenti un petit peu. Ça dépend de lui aussi. Là. C'est, une, c'est une superstar en devenir. S'il connaît une autre grosse progression, ben ça pourrait peut-être aller plus vite à Toronto.
On le souhaite pour eux. Une affaire que je trouve ça le fun aussi dans le basket présentement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens et québécois notamment qui s'imposent. Là. C'est quoi les dernières nouvelles là, pour nos amis Bénédicte Mathurin et Lugan Star?
Écoute, ben Bénédicte Mathurin, on a appris aujourd'hui qu'elle a participé au Rising Star Challenge.
Ouais, il l'avait fait l'année passée aussi.
Ouais, exact, c'est ça. C'est les joueurs de première année et deuxième année qui s'affrontent là, dans le cadre du match du week-end du match des étoiles. Fait que ça, je pense que c'est le vendredi. C'est un match avec les jeunes joueurs.
Dans le fond, c'est comme si la LNH faisait un match avec les meilleurs recrues.
Ouais, exact.
C'est quand même hot.
Ouais, ben, c'est vrai. Honnêtement, ça dépend des années. Mais puisque c'est des jeunes qui cherchent un peu à se prouver aussi, ben souvent, il y a plus d'intensité dans ce match-là que dans le match des étoiles. Mais non, c'est excitant pour lui. Écoute, vous suivez le hockey, vous le savez, les joueurs de deuxième année, c'est pas toujours leur meilleure année. Ouais. Dans le basket, c'est moins fréquent. Mais pour Bénédicte Mathurin, c'est un peu plus difficile que l'année dernière.
Okay.
Mais je pense pas qu'on doit s'inquiéter. Là. C'est surtout un manque de constance plus que qu'autre chose. Il y a des games, il y a eu quelques games de 30 points. Ben, peut-être une, je pense, mais plusieurs games de 25 points. Mm-hmm. C'est juste que ça arrive pas si souvent. Moins de games de 20 points que l'année dernière.
Ouais, c'est ça.
Mais il est aussi dans une équipe qui veut gagner. Il y a des joueurs devant lui. Ils ont la meilleure attaque de la ligue.
Ouais.
Une des pires défenses de la ligue aussi. Là, mais c'est ça. Je pense que c'est une année un peu plus compliquée, mais il y a des belles choses qui l'attendent. Là.
Mais on va le voir en série, probablement. Là.
Ouais, on va le voir. C'est sûr que, ben, en tout cas, à moins d'une catastrophe, les Pacers vont se qualifier.
Ils sont sixième. Il faudrait que les Bulls les dépassent. Ça serait étonnant.
Ça serait très étonnant. Ils viennent d'aller chercher Siakam le temps que la chimie s'installe pour de vrai. Tyrese Haliburton a aussi eu des blessures. Lui, connaît une excellente saison.
Ouais.
Puis pour les autres Canadiens québécois, Lugans Dort joue pour le Thunder.
Il semble qu'il connaît une bonne saison.
Ouais, il joue très bien. Puis c'est pas étranger au succès du Thunder qui sont troisième dans l'Ouest. Dernièrement, il était premier. Tu sais, c'est serré la course dans l'Ouest. C'est une jeune équipe excitante à regarder jouer.
Shy.
Exact.
Ouais.
Gilgeous Alexander.
Lui, il a le plus de points parmi tous les joueurs cette année, c'est ça? J'ai vu ça comme ça.
C'est la meilleure moyenne.
Genre le plus de points termes de genre points amassés, là, peut-être parce qu'il y a plus de matchs que les autres. Là, je sais pas trop. Ça ressemble à quoi l'horaire du Thunder? Là.
Non, je pense pas qu'il a manqué beaucoup de matchs, mais il connaît une excellente saison. Honnêtement, il est dans la conversation pour le trophée du joueur le plus utile.
Ouais.
Un Canadien, il y a eu Steve Nash là, qui en a gagné deux, mais c'est très très rare qu'un Canadien dans cette conversation-là. Ça m'étonnerait qu'il gagne parce que, bon, Jokic puis Embiid connaissent d'excellentes saisons.
Ah, moi, j'irais peut-être plus pour Embiid.
Ben, moi aussi, mais là, ils ont mis une nouvelle règle que si tu manques trop de matchs, tu peux pas être admis pour certaines récompenses. 5-6, là, fait que ça, c'est chaud pour Embiid de la saison. Il en reste des matchs.
Ouais.
Mais moi aussi, je suis d'accord avec Félix. Là, Embiid, je pense qu'il le mérite encore plus que l'année dernière. Jokic, par contre, quel joueur, là, qui est tout le temps dans la conversation.
Ouais.
Puis, Shea, ben, il glisse là-dedans. Là, peut-être 5, top 5 en tout cas, minimum. C'est vraiment une bonne saison. Avant, c'était Jamal Murray, la figure du Canada. Puis, il est encore très bon avec les Nuggets. Mais Shea Gilgeous Alexander, c'est un joueur à surveiller. Il n'est pas très vieux non plus.
C'est le meneur aux Olympiques.
Ouais, exact. C'est ça. C'était déjà le meilleur joueur à la Coupe du Monde cet été. Puis, ça va être encore le joueur à surveiller aux Olympiques. Là. Puis, justement, tu me parles des Olympiques. Le Canada va être à surveiller aussi.
Hey, ça va être gros, ça.
Au soccer, Félix, tu connais ça. T'sais, c'est un peu l'âge d'or du Canada en ce moment. Ouais. Même chose au basket. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de Canadiens qui jouaient dans NBA que cette saison. On a gagné la médaille de bronze contre les États-Unis à la Coupe du Monde cet été. Bon, les États-Unis sont fâchés, ils ont décidé d'amener les gros canons pour les Olympiques.
Cette équipe-là, est-ce que le Canada va quand même avoir des chances?
Il y a des chances de se rendre en finale.
Ouais, c'est ça, tu sais. C'est l'Allemagne qui a gagné. Écoute, l'Allemagne n'a pas plus de talent que le Canada. C'était la meilleure équipe au tournoi, il n'y a aucun doute, puis ils jouaient super bien ensemble.
Mais individuellement.
Ben, c'est ça, fait que le Canada, tout a gagné. Là, ils ont joué un dernier tournoi, un gros tournoi, ils ont joué des gros matchs.
Ouais.
Ils ont fait face à la pression. Honnêtement, on peut rêver pour les Olympiques. Je sais pas si une médaille d'or contre les États-Unis, ça va peut-être être compliqué, mais t'sais, c'est du basket, tout peut arriver. L'Argentine a déjà gagné, l'Espagne a déjà gagné contre les États, fait que non, c'est ça, ça va être un tournoi à surveiller.
Yes. Puis là, on rentre pas mal dans le dernier droit de la saison. Là, quand même, on est à peu près... Quand on rentre dans le dernier droit de la saison pour dans la Ligue nationale de hockey, ben souvent c'est la même chose dans la NBA.
Ouais.
Y a-tu des équipes prétendantes là que tu vois se démarquer, que tu penses vraiment qu'ils ont une vraie chance de gagner le trophée au bout de la saison?
Boston. Boston joue super bien dans l'Ouest. 36 victoires, 11 défaites.
Dans l'Est,
désolé, je sais pas si j'ai dit dans l'Ouest.
Je sais pas, j'étais comme, ben, je t'aurais cru, là, mais Boston, c'est, ouais.
C'est ouais, dans non, l'Est, c'est, pas mal, c'est dans l'Est. Écoute, ils sont allés chercher, tu sais, Porzingis. Et Drew Holiday, honnêtement, des excellentes acquisitions. T'as déjà Jason Tatum puis Jaylen Brown, qui sont deux superstars. Tu rajoutes à ça, tu sais, Drew Holiday, c'est un excellent défenseur. Là, c'est le genre de joueur qui te fait gagner en séries éliminatoires.
Le genre de Philippe Dano, pour ceux qui
écoutent. Exact. Oh, ouais, c'est très, très bon parallèle, honnêtement. Là.
Puis, un bon joueur complet.
Dano joue sur le power play maintenant. Ben, c'est ça, Drew Holiday capable de faire des points aussi. Je te dirais Milwaukee, tu sais, avec Damien Lillard qui viennent d'aller chercher ben, cet été. Puis Yanis Antetokounmpo.
Comme toujours.
Par contre, ils viennent de.
Ils sont combien de les Bucks, Charles?
Hein?
Ils sont combien
de Ils sont deuxièmes, avec 32 deuxième, victoires, ouais. 15 défaites. Ils viennent de congédier leur entraîneur.
Ouais, c'est spécial.
C'est l'ancien assistant des Raptors. Ça, c'est bizarre. Mais à ce qui paraît, il n'y avait plus le vestiaire de son côté. Ça a commencé bizarre. Il y avait
ça
un...
se peut-tu que ça soit difficile de gérer Yanis ou.
Je pense pas. Je pense que Yanis veut gagner. Ben ça, ça peut venir avec une certaine. Pas pression, mais tu sais, des exigences. Il faut que ça marche. Mais je pense pas que c'est un caractère difficile. Là. C'est pas une diva. Mais tu sais, ça a commencé au début de l'année. Il y a eu un incident avec un entraîneur adjoint, Terry Stotts, qui était l'entraîneur chef pendant longtemps à Portland avec Damien Lillard. Il y a eu un incident. L'entraîneur assistant a démissionné. Il y a, Adrian Griffin, l'entraîneur en chef, il aurait crié à, ou en tout cas parlé fort. En tout cas, c'est quelque chose de bizarre. L'atmosphère semblait... étrange dès le début. Fait que t'es un peu une surprise, t'es deuxième dans l'Est.
Puis tu changes d'entraîneur.
Ouais, mais bizarrement, on le voyait venir un petit peu.
C'est comme si les Rangers changeaient d'entraîneur.
Exact. Ouais, c'est ça, exact. Ah ouais. Fait que j'ai un peu de la misère à y croire. Philadelphie aussi, t'sais, avec Embiid, on sait jamais. Ils ont Nick Nurse, l'ancien entraîneur des Raptors. Honnêtement, je l'aime beaucoup.
Mais ils sont juste rendus avec Embiid, là, maintenant.
Ben, ils ont Maxi aussi,
ouais, c'est
leur meneur qui est excellent. Puis depuis qu'Harden est parti, là, prend vraiment sa place.
Prend sa place, ouais.
New York, avec Ojan Inobi, je pense que c'est... Comme Drew Holiday, c'est le genre de gars qui te fait gagner en série. Moi, je pense que c'était vraiment le joueur qui avait besoin. Est-ce qu'ils ont assez de firepower pour aller loin? Je pense pas. Dans l'Ouest, ça
peut
être
intimidant jouer au Madison Square Garden.
Ben, les Knicks n'ont pas beaucoup de succès dans les dernières années. Ça, c'est un peu comme à Montréal. Là, ça vient avec beaucoup de pression. Quand tu perds, tu te le fais dire. Puis c'est dur de gagner dans NBA. Là. Fait que t'as raison. Peut-être que la pression joue un rôle. Dans l'Ouest, t'as plusieurs jeunes équipes. Minnesota est premier en ce moment.
C'est qui les meneurs du Minnesota, les meneurs?
Anthony
joueurs?
Edwards.
Exact. Okay. Ça, c'est le nom à surveiller. Là. C'est,
c'est le gars qui joue dans le film...
Hustle avec Adam Sandler. C'était pas le méchant, là, mais un peu
le vilain.
Ouais, le joueur en compétition avec Bo Cruz, qui était le personnage principal. Ouais, c'est vraiment une prochaine méga vedette, là, un arrière excitant, t'sais, explosif. Ils sont allés chercher Rudy Gobert, aussi le français, alors qu'il y avait déjà Carl Anthony Towns. Ils ont donné énormément, là, beaucoup de choix au repêchage de première ronde. Après un an, tout le monde était comme c'est le pire échange de l'histoire du sport. Finalement, là, ça commence à rentrer dans l'ordre pour eux. Est-ce que je pense que c'était un bon échange? Non. Mais, écoute, on va voir en série si ça paye.
Présentement, son premier dans l'Ouest, fait que c'est facile à défendre. Dans le
fond. C'est sûr. T'sais, est-ce que je pense qu'il pourrait l'être? C'est surtout, t'sais, ça allait pas, ça s'est mis à mieux aller quand ils sont allés chercher Mike Conley.
Mm-hmm.
Je pense que c'est plus lui qui fait la différence. Denver aussi, dans l'Ouest, ils sont tout le temps là, ils ont gagné l'année passée.
Les champions.
Quand t'as Jokic, honnêtement, tout est possible. Jamal Murray. Puis, vas-y, Félix.
Je sais pas si t'as fini, mais question pour tout, mon Charles. En semaine, on sait que le record là, dans un match, Kobe, 81 points. Là, on a vu Doncic, il en a fait 73. On sait qu'également.
Embiid
en a fait 70. Penses-tu que ce record-là, dans Ballon, il saute?
Le record, c'est 100 points. Par contre, c'est
100 points.
Mais tu sais, les dernières années, il n'y a pas de preuve vidéo là, du 100 points. Mais...
C'est ça, le 100 points. écoute, j'étais pas né, les parents étaient pas nés, tu comprends? C'est un peu. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Le record de l'ère moderne, là, si on peut dire ça comme ça, le 80 points de Kobe, penses-tu qu'il est menacé? Allez. 73 points dans un match quand même gros.
81, c'est énorme, là. Ouais. Mais je pense que... Je pense qu'il est battable. Je sais pas s'il est menacé. Mais avec le basket d'aujourd'hui, les trois points, ça prend une certaine situation aussi, là, t'sais, d'un joueur qui lance sans arrêt. Là, faut quasiment que le match soit pas tant serré. T'sais, s'il y a un enjeu, à un moment donné, le gars, il va faire des passes. Là, il n'y a pas le choix. Ouais. Ouais, je pense qu'il va être battu. Et je n'aurais peut-être pas dit ça il y a, je sais pas moi, 2-3 ans. Mais à voir comment les joueurs jouent, il y a de moins en moins de défense. Ouais, je pense que on pourrait, ça pourrait être battu bientôt, là.
Mais là, tu regardes ça, 73 points, 70 points, c'est quand même...
C'est pas si loin, là.
C'est
3,
c'est
en même temps, tu sais, c'est 10 points de plus.
Ouais, mais c'est quand même quelque chose de gros.
Mais 10 points pour des vedettes de même, ça se fait, là.
Ouais, c'est ça. En même temps, tu sais, faut vraiment que tu sois clinique à la ligne des 3, sur les free throw. T'sais, tu peux pas rater ben le palier.
Non,
là,
non, pis je sais pas si vous avez vu Carl Anthony Towns qui a fait, tu quoi, 62, 63, quelque chose comme ça, en haut de 60. Son entraîneur, là, il a rentré dedans après la game.
Ah ouais.
Il l'a benché en fin de match.
Ah ouais.
Parce que c'était un match serré. Pis tu sais, Kat était en feu pendant le match, mais au cours du match, il chassait les points, prenait des mauvais lancers. Pis ses joueurs, les coéquipiers, lui donnaient le ballon pour qu'il batte son record. Mais t'sais, il a scoré 4 points au quatrième quart. Fait qu'il a pas joué de la fin du match. Puis il a dit que c'était, je pense, dégoûtant le mot qu'il a utilisé. Là. C'est, fait qu'il faut que la situation soit bonne. Faut pas que tu rates le panier beaucoup. Faut que tu sois sharp sur les lancers francs. Puis faut pas que tu forces le match non plus. Là.
Un joueur qu'on a beaucoup entendu parler, c'est...
Draymond Green?
Non, j'allais dire Victor Wembanyama.
Mauvaise réponse, Félix. Point 1 point.
Ah, c'est tantôt, quand Charles il était pas content, après moi... J'étais proche de sortir une Damon Green, mais je me suis calmé.
Mais ouais, le Français qui est arrivé là, comme une star dans la NBA, ouais, comment ça se passe avec lui et les Spurs?
Les Spurs, ça va pas bien. Wembanyama, ça va bien.
Ah ouais,
ouais, les Spurs sont derniers dans l'Ouest. Pis... Ouais.
On s'en doutait un peu qu'il allait être pas très bon cette année.
Ouais, c'est ça. Puis
mais attends, ils ont eu le premier choix l'année passée, donc l'équipe devient pas élite du jour au lendemain, là, même si t'ajoutes un joueur comme Wembanyama.
Exact. Puis tu sais, 3-4e dernier dans la ligue. Non, puis bon, on voit souvent sur les réseaux sociaux des clips là, des joueurs des Spurs qui donnent pas le ballon en dessous du panier, puis lui qui fait des, il joue super bien sans le ballon, là on parle souvent de ça, jouer sans la rondelle, sans le ballon, mais il fait des coupes au panier, il se démarque, il fait vraiment le deuxième effort ou l'effort pour avoir le ballon. Il y a pas toujours les passes qu'il faudrait, mais lui il joue super bien, l'enjeu c'est les blessures. À sa grandeur puis il est pas très gros là,
c'est déjà blessé beaucoup depuis le début de la saison.
Il s'était tourné la cheville, je pense, pendant un réchauffement. Mais tu sais, ça avait pas été si grave que ça là. À la date, il reste en santé.
Il a fait un classique genre NBA, dramatise un petit peu, puis finalement, c'était pas si pire.
Je pense que c'est trop bien ça.
Ils ont mis de la mousse là, puis il a guéri là.
Non, c'est ça.
Mais non, écoute, c'est vraiment impressionnant. Lui puis Chet Holmgren, ça c'est deux noms à retenir pour le futur de la NBA. Là, c'est deux. Chet Holmgren est un peu plus petit. Il joue avec le Thunder d'OKC justement avec Gilgeous Alexander puis Lugans Dort. C'est deux, tu sais, deux postes qui sont capables de dribbler, de lancer, de tout faire. Ils sont super excités à regarder jouer. Ça va être une belle rivalité. Là, ils ont joué contre dernièrement. Le score était pas serré du tout. C'est deux, une des meilleures équipes de la ligue contre une des pires. Le score était T'sais, le match était fini au troisième quart, genre, mais ces deux joueurs-là ont continué de batailler. Puis ces deux, t'sais, ils s'en foutaient du score eux autres. C'était un contre un. Puis ça a donné de l'excellent basket. Fait honnêtement, je regardais un clip de Connor Bedard puis Wembanyama en entrevue, là, t'sais, qui se parlaient les deux. Puis Bedard, il a demandé à quel âge Wembanyama avait sa grandeur actuelle de 5 pieds 4.
Pis
5 pieds 10. Wembanyama, il a dit, je sais pas, je pense que j'avais 9-10 ans.
Puis là, il est rendu quoi? Il est comme 7 et 3?
Non, il est 7 et 4, je pense.
7 et 4.
Ouais, puis Chet Holmgren, 7 et 1.
Ah! Ben quand tu dis un petit peu plus petit, c'est quand même un méchant géant.
Oui, c'est ça, là, c'est deux géants, là. C'est rare, là, 7 pieds 4, mais non, c'est une nouvelle forme de pivot là, qui s'installe dans la NBA, d'être capable de tout faire. On voit déjà Embiid puis Jokic qui dominent. Puis Embiid plus avec la force, Jokic, ben, c'est un gars imposant, mais qui protège bien son ballon, capable de faire des belles passes. Ben, il n'y a pas si longtemps, on se demandait, c'était-tu la fin de cette position-là dans la NBA? il y avait beaucoup de meneurs de jeu qui dominaient. C'est ça. Mais c'est une renaissance là, de cette position-là. Là.
En terminant, l'émission achève, j'ai envie de te parler des deux joueurs de basket, j'ai envie de dire, dans mon temps, dans ma jeunesse, LeBron James puis Steph Curry. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ils sont rendus où, là?
Ça va plus ou moins bien pour leur équipe, mais ils continuent à...
LeBron n'a pas fait un triple-double là, en fin de semaine.
Ouais, puis il a joué contre les Warriors, justement, puis les deux ont donné... C'était peut-être le meilleur match de l'année.
Ah ouais?
Puis tu sais, il y a les deux en haut, genre de 35 ans. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'ils vieillissent pas. Curry, en plus, a eu des problèmes de blessures au milieu de sa carrière. T'sais, on aurait pu penser que ça
se termine vite.
Ouais, exact. Non, écoute, les deux, les Lakers sont 9e, vont peut-être faire le play-in, mais je vois pas, les vois pas aller loin. En même temps, quand t'as LeBron et Anthony Davis, tout peut arriver. Ouais, là, mais puis t'sais, les Warriors, ça va pas. Là, ils sont 12e.
Ça va pas, là.
Non, là, tu sais, Klay Thompson, c'est plus le même. Draymond Green, ben, il faudrait qu'il arrête d'être suspendu.
Ouais, Draymond Green. Non, j'ai vu ton tweet.
Puis, tu sais, même si quand il joue, tu sais, il est bon, là, mais c'est plus le même joueur. Chris Paul, ben, c'est plus le même joueur. Puis, fait en plus, il y a eu, tu sais, dernière, je sais pas, il y a peut-être un mois, il y a des jeunes joueurs qui ont. Ça a sorti qu'il y a des jeunes joueurs qui étaient mécontents de leur utilisation. Okay. Tu sais, c'est pas le genre de truc que tu vas entendre dans ton vestiaire. Fait c'est malheureux pour eux, mais côté individuel, ces deux légendes-là continuent d'être au top. Là.
J'ai l'impression que toute ta chronique, on n'arrêtait pas de faire des parallèles avec le hockey, mais j'ai envie de dire que c'est un peu genre Crosby puis Ovechkin, dans le sens que sont encore là. Personnellement, sont encore super dominants. Bon, Ovechkin peut-être un peu moins cette année, là, mais collectivement, leurs équipes, ça va moins bien.
Leur succès leur a fait de mal sur le futur, mettons, là.
Ben, dans le fond, c'est deux joueurs qui, quatre joueurs au total qui ont complètement dominé pendant leur période, mais là, ils s'en viennent vieux, puis ça va moins bien. sur la pente descendante, mais quand même, t'es personnellement, c'est des gars qui sont encore super, super talentueux, super productifs, mais collectivement, ça va moins bien.
Non, c'est un très bon parallèle, puis je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, autant LeBron, Curry, Ovechkin, Crosby, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien les voir finir avec leur équipe respective. Le même, même si tu pourrais aller gagner un autre trophée ou entamer une reconstruction du côté de l'équipe, moi, j'aimerais bien qu'ils finissent où est-ce qu'ils sont. Là.
Ben, ils ont tellement gagné de championnat avec cette équipe-là que... Peut-être aller en chercher un autre ailleurs, là, aussi bien finir avec le chandail.
J'ai l'impression que Crosby va aller jouer avec McKinnon. Je sais pas, là.
Ça serait dangereux.
Peut-être c'est juste un petit feeling que j'ai, là, mais. Ou sinon, il va rester à Pittsburgh, puis il va sûrement travailler avec Carl Dubus. Mais c'est sûr, certain.
Je pense qu'il va prendre sa job.
Ouais.
C'est ça. Mais je pense que Crosby, je le verrais plus comme coach que comme DG.
Ah non, moi, je le verrais DG.
Mais dans tous les cas, tu sais, pour revenir au basket, mettons. LeBron James, sa fin de carrière doit être digne de ce nom. T'sais, s'il change d'équipe, je pense que t'as le même accueil, t'as le même. T'sais, il a déjà changé d'équipe par le passé. Je pense qu'il doit finir où il est présentement. Fini de toute beauté, tu mets un méchant. T'sais,
quand finir avec son fils.
Comme quand tu retires le chandail de quelqu'un, mais c'est ça, je pense. Peut-être finir avec son fils. Comme quand tu retires le chandail de quelqu'un, mais une grosse cérémonie juste pour ce joueur-là. Ça doit être de même également pour Crosby ou Ovechkin. Je pense que c'est la seule manière de faire ça. Mais c'est changer un joueur vedette dans un autre club pour sa fin de la carrière. Pour la fin de sa carrière, c'est. Je sais pas, moi, je suis pas un fan. J'aime mieux quand un gars finit sa carrière où il a commencé. Totti qui a fini à Roma au soccer, c'est des affaires d'avoir, moi, j'aime bien ça, ça fait des belles histoires, puis on s'en rappelle toute notre vie, tu sais. On va savoir que Crosby a fini avec les Pingouins et non avec l'Avalanche du Colorado.
Un joueur qui était fidèle à la même équipe, au même maillot, au même chandail toute sa carrière, là.
Tu sais, là, je fais des références avec beaucoup de sport, mais ça, on sait tous, Messi, tu sais, a quitté Barcelone, mais c'est pas pareil, là, tu sais. Si il revient à Barcelone une autre fois, en fait, ça gagne juste un contrat d'une journée, là, ça va être correct. Mais là, tu sais, il peut pas finir à Miami, tu sais. C'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que LeBron, il finisse, lui, présentement. Même chose pour tous les grands de ce monde qui ont popularisé le basket.
Tu sais, je pense que c'est des bases partisanes qui peuvent se permettre de rien gagner pendant quelques années. À Pittsburgh, là, ils ont tellement gagné. Mais ça, je pardonnerais à mon organisation de pas entamer une reconstruction tout de suite ou que ça prenne un peu plus de temps, mais de pouvoir voir Crosby finir à Pittsburgh.
Ah, puis à Pittsburgh, là, les joueurs, ils vont donner les billets de saison aux partisans en main propre. tu te lèves le matin, tu vois Sidney Crosby, il cogne à ta porte, il vient de donner un billet de saison, c'est capoté. Moi, je pardonne n'importe qui.
Ben, moi, je dis qu'on déménage à Pittsburgh, qu'on achète un billet de saison.
Ça va déjà à Brighton.
Ouais, on s'en va courir le soccer en Angleterre. C'est annoncé officiellement.
Ouais, c'est ça.
Super. Hey, merci beaucoup, messieurs, là, d'avoir été avec nous ce soir. Félix, Antoine, Charles, ce fut un plaisir. Très belle émission.
Merci, messieurs. Comme toujours.
C'était bien fun.
Yeah! Donc, cher public, si jamais vous avez manqué l'émission, je vous l'ai mentionné, là, vous pouvez suivre Boisvert Radio sur tous nos réseaux sociaux. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.